à Voilu. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Canal Académie vous propose de prendre connaissance de la communication lue devant l'Académie des sciences morales et politiques par M. Philippe Chassaigne, communication consacrée à Mme Thatcher. Philippe Chassaigne est un spécialiste de l'histoire de l'Angleterre. Son livre intitulé « Histoire de l'Angleterre » compte parmi les classiques sur le sujet et publié dans la collection Champs chez Flammarion. Philippe Chassaigne a consacré plusieurs ouvrages à la Grande-Bretagne, à diverses époques, du XIIe siècle au XXe siècle, mais il s'est plus particulièrement penché sur les multiples aspects de la Grande-Bretagne au XIXe siècle et jusqu'à nos jours. Il n'est donc pas surprenant qu'un personnage comme Madame Thatcher ait retenu sa meilleure attention. Nous écoutons sa communication qui nous met en mémoire l'arrivée de Madame Thatcher au pouvoir.
Le 10 juin 2002, dans une tribune libre publiée par le Times, Peter Mandelson, ancien ministre et proche conseiller du premier ministre travailliste Tony Blair, déclarait « Nous sommes tous des Thatcheriens ». Sans doute une lecture attentive montrait-elle que cette affirmation était assortie de quelques nuances. Dans ce sens étroit et dans le besoin urgent d'affranchir les marchés des rigidités du capital, de la production et du travail, il n'empêche, émanant d'une figure de premier plan du parti, l'aveu traduisait bien le caractère essentiel des 11 années de mai 1979 à novembre 1990, passé par Margaret Thatcher au 10 Downing Street. Pour autant, elle a provoqué plus que le lot habituel de controverses qui accompagne l'action de tout dirigeant national. Elle a suscité admiration sans bornes et dénonciation véhémente, voire haineuse. Elle est le premier dirigeant britannique à avoir fait l'objet d'une tentative d'attentat en 1984 à Brighton, depuis celui qui coûta la vie à Spencer Perceval en 1812. Elle a conduit les conservateurs à la victoire à 3 reprises consécutives, 1979, 1983, 1987, et son mandat est l'un des plus longs de l'histoire britannique depuis 2 siècles. Très vite, on n'a plus parlé de conservatisme, mais thatcherisme. Et on continue encore de le faire, comme on vient de le voir sous la plume de Peter Mandelson. Or, la personnalisation d'une doctrine politique était quelque chose de littéralement inouï en Grande-Bretagne. On l'a représenté tour à tour sous les traits de Britannia, trident à la main et bouclier au bras, bien décidé à faire entendre la voix de la Grande-Bretagne sous ceux de la Dame de Fer, leader autoritaire et inflexible, sinon dénué de qualité de cœur ou encore comme une mégère, imposant ses vues, quasi littéralement à coup de sac à main, pour pleinement apprécier l'ensemble de son action au risque de l'histoire immédiate, il nous faudra voir d'abord la crise profonde dans laquelle la Grande-Bretagne se trouvait lors de son arrivée aux affaires, puis les réponses qu'elle entendit y apporter. Nous tenterons ensuite de faire ressortir les caractéristiques du leadership thatcherien, qui est sans doute le domaine dans lequel nous rencontrerons véritablement le pire comme le meilleur.
Philippe Chassaigne vient donc dénoncer le plan de son intervention. Il commence par une première partie consacrée à la Grande-Bretagne à la fin des années 1970 en illustrant son propos, la crise de l'homme malade de l'Europe, par quelques chiffres éloquents.
Les années 1970 sont marquées en Grande-Bretagne par une crise à la fois économique, sociale, politique et culturelle. Crise économique avec une détérioration constante et accélérée de tous les indicateurs à la suite du premier choc pétrolier de 1973 qui avait aggravé des difficultés manifestes dès la fin des années 1960. Entre 1973 et 1979, la croissance fut inférieure à 1,5%, voire négative en 1974-1975. Le nombre des chômeurs augmenta constamment pour arriver à 1,5 million au début de 1979. L'inflation devint galopante, avec une poussée de fièvre à 25% en 1975 et une moyenne annuelle de 10,5%. Commerce extérieur, paiement courant, budget, accusaient des déficits records. Situé au 15e rang des pays de l'OCDE en 1971, mais au 5e en 1951, la Grande-Bretagne était tombée au 18e rang en 1976, année où sa part dans la production industrielle mondiale passa en dessous de 10%, alors qu'elle était encore de 20,5% en 1955. Crise sociale ensuite, avec d'une part le retour du chômage de masse qui avait disparu depuis la Seconde Guerre mondiale, mais aussi d'autre part une agitation sociale endémique. Près de 15 millions de journées de travail perdues pour fait de grève en 1974. Encore 10 millions en 1977-1978. 30 millions en 1979, du fait du célèbre « hiver de la grogne », Winter of Discontent, du début de l'année, au cours duquel des grèves tournantes mobilisèrent transporteurs routiers, cheminots, employés municipaux, éboueurs et jusqu'aux fossoyeurs et paralysèrent littéralement le pays. La crise était aussi politique. Face aux syndicats, forts de leurs 13 millions d'adhérents, un chiffre record, l'impuissance gouvernementale était toujours plus évidente. Ces conflits du travail à répétition avaient pour cause la volonté du gouvernement de modérer des revendications salariales, celles-ci sans rapport aucun avec une productivité poussive, ce qui obérait la compétitivité de l'économie nationale. L'hiver du mécontentement avait montré que le vrai pouvoir s'exerçait à Congress House, siège du Traders Union Congress, et non plus au 10 Downing Street. D'ailleurs, le gouvernement Callaghan, de 1976 à 1979, ne disposait plus de majorité à la Chambre des communes. Les libéraux et les partis nationalistes, gallois et écossais, se trouvaient en position d'arbitre. James Callaghan dut conclure en mars 1977 un accord avec les premiers pour obtenir une majorité aux communes. La dissolution du pacte Lib-Leb, Liberal-Labour, l'année suivante, le mit sous la dépendance des nationalistes. Et c'est d'ailleurs la défection d'un député écossais qui entraîna la chute de son gouvernement le 28 mars 1979 et la convocation de nouvelles élections. Crise culturelle enfin, avec le sentiment d'un modèle de société édifié par les travaillistes au lendemain de la guerre et perpétué par les gouvernements successifs pendant 30 ans, ayant atteint ses limites, l'État-providence, omniprésent et prédateur d'une part toujours plus grande de la richesse nationale, les dépenses publiques représentaient 59% du PIB, n'était plus en mesure d'assurer la croissance économique ni le plein emploi. Comme le ministre travailliste Anthony Crosland le reconnaissait dès 1975, la fête était finie. The party is over. On ne saurait donc sous-estimer la gravité de la situation de la Grande-Bretagne à la fin des années 1970. Elle était l'homme malade de l'Europe. Un journaliste influent, Peter Jay, avait forgé le néologisme « Englanditis ». Mal anglais. Et certains économistes se demandaient si l'on n'assistait pas à un phénomène de retrovelopment, développement inversé, par lequel l'ancien atelier du monde serait en train de prendre la voie du sous-développement.
Tel est donc le difficile contexte rappelé par Philippe Chassaigne dans lequel va devoir évoluer Margaret Thatcher. Voici d'abord un petit rappel des conditions de son élection, puis en quelques mots sa doctrine et enfin les éléments qui justifient que son action ait pu être considérée comme une véritable révolution.
C'est dans ce contexte que Margaret Thatcher mena les conservateurs à la victoire le 3 mai 1979. 44% des voix et 339 élus contre 37% aux travaillistes et 269 élus, devenant le lendemain la première femme à diriger le gouvernement d'un pays occidental. Le nouveau Premier ministre était assez peu connu de ses concitoyens. Elle dirigeait le Parti conservateur depuis 1975 seulement et n'y avait pas auparavant occupé de poste véritablement de premier plan. Née en 1925 à Grantham, petite ville du Lincolnshire, Margaret Hilda Roberts, Thatcher est son nom de femme, avait fait ses études à Oxford. Elle avait débuté en politique en 1950 et s'était fait élire en 1959 à Finchley, circonscription suburbaine du nord-est de Londres. En 1970-1974, elle fut ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement Heath, avant de lui succéder, un peu par surprise, à la tête du parti l'année suivante. Se décrivant elle-même comme un dirigeant politique de conviction, « politician of conviction », elle entendait mettre en pratique un programme appuyé sur quelques principes fondamentaux pour enrayer le déclin du pays. La principale intéressée disait proposer non une doctrine, mais un mode de vie qui devait beaucoup au simple bon sens et aux valeurs de son milieu d'origine, appartenant aux classes moyennes. Son père, c'est bien connu, un épicier et un élu local. Margaret Thatcher avait été élevée dans les valeurs victoriennes, magnifiant le travail, l'esprit d'initiative, la famille et la nation. Elle y voyait la clé de la réussite britannique au XIXe siècle et, dans leur oubli, la cause première des maux que son pays traversait. Ces valeurs différaient assurément de ce que l'on a pris coutume d'appeler le consensus d'après-guerre, qui avait prévalu de 1945 au milieu des années 1970. Consensus avec les syndicats, consensus sur le maintien des prérogatives de l'État dans l'économie, consensus enfin autour de la protection sociale par le biais de l'État-providence mis en place par les travaillistes en 1946. Les vues de Margaret Thatcher étaient radicalement opposées. Elle prônait le libre jeu du marché et, à la différence des Keynésiens, voulait mener la lutte contre l'inflation avant celle contre le chômage. L'idée d'une fiscalité redistributrice lui paraissait un non-sens, des taux d'imposition élevés ayant pour effet principal de décourager l'initiative et de brider la croissance. En outre, elle considérait l'existence même des inégalités sociales comme stimulant la mobilité sociale. Quant aux syndicats, elle trouvait leur pouvoir excessif et contraire à la démocratie. Influencée par les idées des économistes néolibéraux tels Friedrich von Hayek et Milton Friedman, elle voulait refouler les frontières de l'État et le recentrer sur ses fonctions naturelles, garantie de la monnaie, maintien de l'ordre public et défense nationale. Ces principes furent rapidement mis en application. Déréglementation et État minimal devinrent les maîtres mots de la politique conservatrice. Le contrôle des changes fut aboli, comme celui des prix et des salaires. Le taux maximal d'imposition passa de 83% à 40%, et le taux de base de 33% à 20%. Surtout, le gouvernement engagea une vaste politique de privatisation, portant sur une cinquantaine d'entreprises, qui ramena la part du secteur public dans le PIB de 12% à 3%. Elle devait diminuer les dépenses de l'État et lui apporter des recettes nouvelles sans avoir à augmenter les impôts. De fait, le produit des privatisations s'éleva à plus de 28 milliards de livres entre 1979 et 1990. démontrer par l'exemple les qualités du secteur privé, réduire l'emprise des syndicats très puissants dans le secteur public, multiplier l'actionnariat populaire et constituer une démocratie de propriétaires acquise aux conservateurs. En 1990, le nombre des actionnaires s'élevait à 9 millions. Dans la même optique, les deux tiers du parc de logements sociaux furent vendus à leurs locataires à des prix sensiblement inférieurs à ceux du marché. En matière de politique sociale, le gouvernement voulait encourager non l'esprit d'assistance, mais la création de richesses, celle-ci devant couler goutte à goutte jusqu'aux couches défavorisées de la société. Théorie du trickle-down. En conséquence, le système d'assistance sociale, caractéristique de l'État-providence, fut réorganisé en privilégiant les subventions ciblées en direction des vrais nécessiteux, truly needy, plutôt que des aides attribuées sans distinction. C'est pourquoi, et il faut ici pourfendre quelques idées reçues, les dépenses sociales n'ont pas diminué entre 1979 et 1990, mais ont été, au mieux, stabilisées autour de 22% du PIB. Dans l'ensemble des dépenses gouvernementales, elles passèrent même de 42% à 50%. Déduction faite de l'inflation, les dépenses en faveur de l'emploi ont augmenté de 73%. Les dépenses de sécurité sociale de 33% et celles du Service national de santé de 34%. On est loin des accusations souvent émises d'un démantèlement de l'État-providence.
Toutefois, et l'auteur de cette communication, Philippe Chassaigne, ne peut omettre de mentionner les dures oppositions que les mesures de Mme Thatcher suscitèrent. Les voici brièvement rappelées.
Margaret Thatcher voulait aussi conjurer à jamais le spectre des grèves ininterrompues des années 1970. Plusieurs lois ad hoc adoptées à un rythme soutenu, 1980, 82, 84, 88, limitèrent les prérogatives syndicales telles le close shop, monopole syndical d'embauche, interdirent les grèves de solidarité dans les usines non concernées par un conflit, rendir les syndicats juridiquement responsables des dégâts occasionnés au cours des grèves et obligèrent les dirigeants syndicaux à consulter la base par des scrutins à bulletin secret avant de déclencher une grève. L'élection des dirigeants syndicaux, jusqu'alors contrôlés par les états-majors du TUC, était soumise à la même procédure, de même que le versement d'une contribution des syndicats au parti travailliste, source principale de ses revenus depuis le début du XXe siècle. Ces réformes se heurtèrent d'abord à une vive résistance, avec une multiplication des conflits sociaux qui culmina dans la grande grève des mineurs de 1984-1985. Celle-ci, au caractère insurrectionnel évident, fit figure de deuxième tour social des élections de 1983 remportées par les conservateurs. Elle s'acheva par la victoire du Premier ministre. Le mouvement syndical enregistra ensuite un déclin de ses effectifs, 10 millions d'adhérents en 1990, ce qui restait tout de même un niveau élevé rapporté au cas français. Et le nombre des grèves diminua sensiblement, moins de 2 millions de jours de travail perdus pour fait de grève en 1990.
Vous écoutez la lecture sur Canal Académie de la communication prononcée devant l'Académie des sciences morales et politiques par Philippe Chassaigne, communication consacrée à Madame Thatcher. Peut-on dresser un bilan de la politique thatchérienne ? Voici les analyses proposées par Philippe Chassaigne, analyses qui s'appuient, comme il se doit, par des chiffres et des statistiques fondées sur des données économiques.
Le bilan de cette politique peut s'apprécier à plusieurs niveaux. Sur le plan économique, les années Thatcher ont vu une succession de fluctuations cycliques très marquées, à l'image de ce que le pays connaissait depuis les années 1950. Forte récession en 1979 1982, Mutatis Mutandis, l'analogie avec la thérapie de choc pratiquée dans les États de l'Est à la sortie du communisme est assez suggestive. Retour de la croissance à partir de 1983. Et pendant les 5 années suivantes, nouvelle crise à partir de 1989-1990. Lorsque Margaret Thatcher démissionna de son poste de Premier ministre pour des raisons autres que nous verrons plus loin, elle laissait à son successeur John Major une situation économique difficile. Toutefois, au-delà des aléas conjoncturels, les réformes structurelles réalisées entre 1979 et 1990 ont permis au pays de connaître, à partir de 1993-1994, une croissance qui ne s'est jamais démentie jusqu'à aujourd'hui. Si le Parti conservateur a perdu les élections de mai 1997, le gouvernement travailliste de Tony Blair a poursuivi la même politique économique, ce que reconnaissait sans détour Peter Mandelson. On a beaucoup glosé lorsqu'en 1987, l'Italie dépassa la Grande-Bretagne en termes de produit national brut par habitant. On a nettement moins réagi lorsque celle-ci rattrapa son retard et, dans la foulée, dépassa la France. La Grande-Bretagne se situe de nouveau au 15e rang des pays de l'OCDE. On rappellera les taux de chômage des deux pays respectifs, 9,1% pour la France, 3,1% pour la Grande-Bretagne. Les Français, du moins certains, se consolent en jugeant que les Britanniques n'ont pas de vrais emplois. Toujours épris d'authenticité, nous avons, nous, de vrais chômeurs. La Grande-Bretagne n'a donc plus rien à voir avec le pays à la remorque financière du Fonds monétaire international qu'elle était il y a 25 ans. Des chefs d'entreprise français s'y installent. La City, dynamisée par la déréglementation du début des années 1980, est l'un des poumons du capitalisme mondial. En 1990, la Bourse de Londres était la troisième au monde après Wall Street et Tokyo. On ne saurait toutefois nier que cette reprise économique a eu un coût social réel. Le chômage de masse a été une constante du début des années 1980 au milieu des années 1990, culminant à plus de 3,5 millions en 1986 et de nouveau en 1993. Les inégalités sociales se sont creusées. Entre 1980 et 1990, les 10% les plus pauvres de la population ont vu leurs revenus baisser de l'ordre de 10%, alors que ceux des autres déciles ont augmenté de façon d'autant plus importante que l'on progressait dans la hiérarchie sociale. Plus 4% pour le deuxième décile, mais plus 60% pour les 10% les plus riches. Les inner cities, quartiers déshérités des grandes villes, Brixton à Londres, Toxteth à Liverpool, ont été le théâtre d'émeutes violentes en 1981, 1985 et 1990. La proportion de familles vivant en dessous du seuil de pauvreté, 50% du salaire moyen, était passée de 8% en 1979 à 22% en 1990. Comme l'écrivait l'hebdomadaire The Economist en 1994, grâce aux réformes thatchériennes, les Britanniques appartiennent aujourd'hui à la classe moyenne, où ils dorment dans des cartons à la belle étoile. On touche là aux limites de la théorie de trickle-down, même si l'image d'une pauvreté à la Dickens, souvent entretenue complaisamment de ce côté-ci de la Manche, est à nuancer. 50% des pauvres disposaient d'une voiture ou d'un magnétoscope. 75% du téléphone. Margaret Thatcher n'a jamais caché sa préférence pour ce type de société. Plus ouverte, mais aussi plus inégalitaire, ce qui dénote un courage politique assez peu répandu. De fait, le thatchérisme se mesure aussi à l'aune des qualités du leadership de la dame de fer.
Philippe Chassaigne va maintenant s'attacher à développer ce que l'on a pu appeler le leadership thatchérien pour en souligner la portée et les limites. Il rappelle également la prise de position de Madame Thatcher concernant l'adhésion de la Grande-Bretagne à l'Europe.
La première caractéristique du leadership thatchérien est la fermeté des convictions et la vigueur de leur affirmation, même dans des circonstances difficiles. Ainsi, lors du congrès du Parti conservateur d'octobre 1980, Margaret Thatcher répondit à ceux qui la pressaient de modifier sa politique économique « Vous ferez demi-tour si vous voulez, la dame ne fait jamais demi-tour. You will turn if you want to, the lady is not for turning. » Autre choix affirmé et défendu, celui de reconquérir par la force les Malouines, envahies par les Argentins en avril 1982, au lieu d'attendre un éventuel règlement de la crise par l'ONU ou encore le renforcement des liens avec les États-Unis. Outre les points communs entre Margaret Thatcher et Ronald Reagan, président des États-Unis de 1980 à 1988, le Premier ministre fut sans aucun doute le premier dirigeant britannique depuis Churchill à exprimer sans détour sa croyance en la supériorité intrinsèque d'un modèle culturel anglo-américain. Elle soutint de façon indéfectible les initiatives du président Reagan lors de la crise des euromissiles, en 1980-83, lorsqu'il lança son projet un peu utopique d'initiative de défense stratégique, 1983, ou lors du raid aéroporté contre le colonel Kadhafi en 1986. Certes, l'invasion américaine en octobre 1983 de l'île Caraïbe de Grenade, État indépendant membre du Commonwealth, pour y renverser un gouvernement marxiste, suscita sa colère, mais elle n'altéra pas substantiellement les rapports entre les deux dirigeants. L'étroitesse de ce partenariat anglo-américain était vivement dénoncée par ceux qui auraient voulu voir la Grande-Bretagne préférer l'Europe au grand large. On peut imaginer que ses partenaires européens ont gardé en mémoire les discussions des années 1980-1984 portant sur le montant de la contribution britannique au budget communautaire et la volonté de Margaret Thatcher, trouvant que son pays payait beaucoup plus qu'il ne recevait en retour, de récupérer son argent. À peine la question fut-elle réglée en 1984 par l'accord de Fontainebleau qu'elle repartit en croisade en 1988 contre l'évolution fédéraliste que prenait la CE. Dans son célèbre discours de Bruges, le 22 septembre 1988, elle déclara sans détour « Travailler plus étroitement ensemble ne nécessite pas que le pouvoir soit centralisé à Bruxelles ou que les décisions soient prises par des bureaucrates non élus. Nous n'avons pas réussi à repousser les frontières de l'État en Grande-Bretagne pour les voir réimposées au niveau européen avec un super-État européen exerçant sa domination depuis Bruxelles. » Ces prises de position l'ont fait décrire au mieux comme la gaulliste de Grantham, au pire comme une passionnaria anti-européenne. Gaulliste de Grantham en raison de son attachement à la souveraineté nationale qui faisait écho au plaidoyer du général en faveur de l'Europe des patries. S'il est toujours délicat de solliciter les morts, on peut néanmoins imaginer qu'il aurait été sensible à l'attachement thatchérien à l'identité des États et sans doute moins au renouveau de la relation spéciale anglo-américaine. C'est pourtant oublier que la position de Margaret Thatcher était dans le droit fil de celle de ses prédécesseurs, à l'exception de Ted Heath en 1970-1974, instinctivement hostile devant le caractère supranational des institutions européennes mises en place depuis la naissance de la CECA en 1950. En réalité, CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, bien entendu. En 1975, le gouvernement travailliste de Harold Wilson avait même consulté la population britannique par référendum pour savoir si le pays devait rester ou non dans la CE, 2 ans seulement après y être entré. L'objet du litige était déjà une question de contribution de la Grande-Bretagne au budget communautaire. Margaret Thatcher n'eut jamais recours à un tel procédé. Elle n'était pas anti-européenne, mais opposée à une Europe politique fédéraliste et à son incarnation archétypique, la monnaie unique. Elle lui préférait la vision alternative d'un espace de liberté économique assorti d'une coopération intergouvernementale efficace et le faisait savoir avec toute sa force de conviction.
Un leadership est-il paradoxal pour une femme ? Madame Thatcher a-t-elle mérité son surnom de dame de fer ? Cette femme exceptionnelle était-elle soucieuse d'une certaine avancée des femmes en politique ? Que pensaient à son sujet des hommes comme le président Mitterrand ? Comment devient-on une femme politique irréprochable ? Écoutez ce qu'en dit Philippe Chassaigne.
Le nom de Margaret Thatcher est indissociablement lié au surnom de Dame de Fer, que le journal soviétique L'Étoile Rouge lui décerna en janvier 1976 dans le but de stigmatiser son anticommunisme inébranlable. L'expression devint rapidement, au contraire, un atout politique, et la principale intéressée savait jouer sur les deux termes. Le fer pour l'inflexibilité et la détermination, mais aussi la dame, car Margaret Thatcher, au risque de l'oublier, était bel et bien une femme. Et cette dimension est évidemment à prendre en compte pour évaluer son action. Son appartenance au Parti conservateur, habituellement peu soucieux d'émancipation féminine, était un élément qui pouvait surprendre. Elle-même, d'ailleurs, ne se préoccupa guère de féminiser le parti ni le gouvernement. On pourrait dire qu'elle était indifférente à ces questions, de même qu'elle faisait abstraction de sa féminité, la transcendait en quelque sorte, en prenant les habits de Premier ministre de Sa Majesté. La question n'est cependant pas dénuée d'ambiguïté. Plusieurs de ses opposants ont reconnu que le fait qu'elle fût une femme les avait amenés à modérer, malgré eux, mais de façon quasi instinctive, leurs attaques à son encontre. Inversement, certaines des critiques qui lui furent adressées, par exemple son côté autoritaire et chicaneur, ou encore sa propension à imposer ses vues à coups de sac à main, étaient à l'évidence empreintes de sexisme. On rappellera aussi les 2 jugements par ailleurs bien connus du président Mitterrand, disant de Margaret Thatcher qu'elle était le seul homme du gouvernement anglais, mais aussi qu'elle avait les yeux de Caligula et la bouche de Marilyn Monroe. Mais quel aspect préférait-il ? Nous ne pouvons que supputer. Sur le plan du style, la transformation est frappante. Entre la femme mal fagotée, à la voix toujours prête à déraper dans des tonalités suraiguës, qui entra au 10 Downing Street le 4 mai 1979, et la figure quasi impériale qui lui succéda en quelques mois et qui continue encore à délivrer des conférences dans les plus grandes institutions américaines. Permanente impeccable, tailleur élégant, élocution posée grâce à des cours de diction intensifs. À l'évidence, cela contribua à lui conférer une aura incontestable qui la situe à part tant dans la galerie des premiers ministres britanniques que dans celle des leaders conservateurs.
Autre question de fond, Margaret Thatcher fut-elle un grand chef de parti ? Philippe Chassaigne pose cette interrogation fondamentale en examinant ses succès ou ses piètres succès aux élections.
À la différence de la France, le Premier ministre britannique est avant tout un chef de parti. Paradoxalement, le leadership de Margaret Thatcher sur la formation qu'elle dirigea pendant 15 ans, de 1975 à 1990, et qu'elle mena à 3 victoires successives, 79, 83, 87, fut toujours fragile. ses idées ne firent jamais l'unanimité, notamment parmi les barons du conservatisme. On se souvient qu'en 1986, l'ancien Premier ministre Harold Macmillan compara les privatisations à la vente de l'argenterie de famille. Elle-même avait l'habitude de distinguer entre « dur » et « mou », c'est-à-dire ses partisans et ceux qui étaient plus timorés, et de ne compter que sur les premiers. Toutefois, le souci de ménager les équilibres à l'intérieur du parti l'empêcha de jamais constituer un gouvernement peuplé d'une majorité de ses fidèles. D'où de multiples remaniements, qui prirent parfois l'allure de nuit des longs couteaux, comme pour celui de juillet 1989, au cours duquel 9 personnes seulement, dont Margaret Thatcher elle-même, demeuraient dans leurs fonctions antérieures. L'atout principal de Margaret Thatcher résidait dans sa capacité à gagner les élections. Encore faut-il souligner que les performances électorales du parti ne furent en rien exceptionnelles. Le pourcentage des voix conservatrices déclina d'une élection à l'autre, 44% en 79, 42,5% en 83, 42% en 87. Et les conservateurs durent leur large victoire en termes de sièges à l'effet démultiplicateur du mode de scrutin britannique et à la division de leurs adversaires entre le Parti travailliste et l'Alliance libérale-démocrate née au début des années 1980. Ils ne cessèrent de perdre du terrain en Écosse, au Pays de Galles ou dans le nord de l'Angleterre, les régions où les problèmes sociaux étaient les plus importants et la fracture sociale la plus marquée. En novembre 1990, la réforme des impôts locaux, connue sous le nom de poll tax, que le Premier ministre avait mise en œuvre et qui instituait une taxe d'habitation pesant sur tous les adultes vivant sous le même toit, suscita une levée de boucliers telle dans tout le pays que Margaret Thatcher cessa d'être un atout électoral aux yeux des députés conservateurs. Ils n'hésitèrent pas alors à la pousser, subtilement, mais fermement, à la démission.
Pourtant, et malgré tout ce que nous venons d'entendre, Philippe Chassaigne en arrive maintenant à sa conclusion. Margaret Thatcher a considérablement modifié le paysage politique britannique. Elle a bouleversé son parti, le Parti conservateur, et si elle ne fut jamais vraiment populaire, elle a provoqué une véritable révolution dans un style qui n'a appartenu qu'à elle.
Eh oui, elle n'en avait pourtant pas moins considérablement modifié le paysage politique britannique en mettant ses valeurs au centre du débat démocratique. Le Parti travailliste, qui s'était dans un premier temps radicalisé à gauche, dut, après 3 défaites successives, et pour retrouver une chance de revenir un jour au pouvoir, procéder, à la fin des années 1980, à un aggiornamento idéologique de grande ampleur. Il accepta tour à tour les privatisations, la vente des logements sociaux et l'économie de marché. Il renonça à prôner le désarmement unilatéral de la Grande-Bretagne. Après une nouvelle défaite en 1992, les travaillistes promirent, en cas de retour au pouvoir, de ne pas augmenter les impôts. En 1995, leur nouveau leader, Tony Blair, parfois surnommé Tory Blair, fit abroger la clause 4 des statuts du parti, introduite en 1918, qui prônait la socialisation de l'économie. Au terme de ce Bad Godesberg à l'anglaise, le Labour est revenu au pouvoir en 1997. Paradoxalement, c'est le Parti conservateur qui a le plus pâti des 11 années du thatchérisme. Son successeur, John Major, 1990-1997, tenta de se défaire de l'image de créature de Marguerite Thatcher qui lui collait à la peau, Thatcherette, puisqu'il avait fait toute sa carrière dans son sillage. S'il n'altéra pas les principes politiques fondamentaux de son action, il adopta une rhétorique plus consensuelle. Il n'imposa en revanche ni style ni idéologie propre, pas de majorisme. La victoire conservatrice aux élections de 1992 fut une divine surprise. Mais il buta ensuite constamment sur les divisions internes du parti entre pro- et anti-européens. Celles-ci, en sus de l'usure du pouvoir et de scandales à répétition, jouèrent d'ailleurs un rôle réel dans la déroute des Tories en mai 1997. 30% des voix, soit le plus faible score du parti depuis le début du siècle. Depuis, les conservateurs ne cessent de se chercher une identité politique véritable. Ils sont toujours profondément divisés sur la question de la monnaie unique. Leur audience électorale a littéralement piétiné entre 1997 et 2001. 30% des voix. Et on cherche vainement l'apparition d'une relève. Leurs leaders successifs, William Hague, 97-2001, puis Ian Duncan Smith depuis 2001, manquant à tout le moins de charisme. Tony Blair, faisant globalement figure de digne héritier de la Dame de Fer, il ne s'en défend d'ailleurs que du bout des lèvres, les conservateurs peinent à trouver une idéologie de rechange. Les perspectives sont donc très sombres pour le plus ancien parti politique britannique. Margaret Thatcher a-t-elle été un grand chef de gouvernement, mais un détestable chef de parti? C'est au moins, à grands traits, l'idée qui semble s'imposer si l'on compare à l'heure actuelle la situation de la Grande-Bretagne et celle du Parti conservateur. On pourra considérer néanmoins qu'il est plus facile de sortir du gouffre un parti politique, l'exemple des travaillistes vient opportunément le rappeler, qu'une nation tout entière. Par son style autoritaire ou son apparente indifférence devant la montée des inégalités, et malgré ses succès électoraux, Margaret Thatcher ne fut jamais vraiment populaire. Pourtant, en réhabilitant la place du marché et de la libre entreprise dans l'économie, la fille d'épicier provoqua une véritable révolution politique, et son exemple fut suivi de façon plus ou moins avouée par tous les dirigeants des partis industrialisés. Ne pourrait-on pas dire avec Peter Mandelson que nous sommes tous des Thatcheriens ?
Vous venez d'entendre la lecture de la communication prononcée par M. Philippe Chassaigne et consacrée à Mme Thatcher devant l'Académie des sciences morales et politiques. Je me permets de vous rappeler que cette communication, vous pouvez la retrouver dans l'ouvrage intitulé « Personnages et caractères », ouvrage collectif dirigé par M. Emmanuel Leroy-Ladurie est publié par l'Académie des sciences morales et politiques conjointement avec les presses universitaires de France.